Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à la Tour Eiffel. Eh bien oui, vous l'entendez autour de moi, les visiteurs sont de retour à Paris, une des grandes places mondiales du tourisme, peut-être même la ville qui fait le plus rêver sur la planète, les jeunes comme les moins jeunes, avec Guillaume Munier, notre réalisateur. Nous avons donc choisi pour installer les micros d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, le plus célèbre des monuments, l'emblème absolu aux multiples surnoms.
La Grande Dame ?
La Dame de Fer, par exemple.
La Tour de Fer,
la Dame de Fer.
Le Monument de Paris, ou je sais pas moi.
La Tour Eiffel, c'est joli et ça a dû prendre du temps de la construire. Et c'est un vrai labyrinthe d'escalier.
Quand on monte, on a une belle vue aussi.
Ah, c'est vrai qu'on a une belle vue ici dans les étages de cet édifice monumental, 300 mètres de hauteur. Sans compter les antennes, environ 7000 tonnes de fer, dont 60 tonnes de peinture, conçues à la fin du 19e siècle par le génial ingénieur Gustave Eiffel à l'occasion d'une exposition universelle et qui reste 130 ans plus tard, et bien précisément un symbole universel, une tour de Babel qui s'illumine le soir où l'on parle toutes les langues, à peu près 20 000 visiteurs chaque jour en temps normal. En temps normal, oui, parce que les deux dernières années n'ont pas été normales pour la Tour Eiffel comme pour tous les lieux touristiques en France et dans le monde. Et c'est de cela dont nous allons parler ici et aujourd'hui avec nos invités. Après les années Covid, comment ce secteur économiquement stratégique va-t-il se relever ? Que peut-il, que doit-il changer pour faire vivre tant de gens sans devenir une gêne, voire une source de dégâts pour la planète ? Nos invités, les voici. Bonjour Jean-François Martins.
Bonjour Bruno et bienvenue à la Tour Eiffel.
C'est vous, effectivement, qui nous accueillez. Vous êtes le président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Pendant plusieurs années, vous avez été élu à la mairie de Paris, chargé des questions de tourisme et de sport. Ça tombe bien, on va aussi parler des JO 2024. Et bonjour également à Sylvain Zegny.
Bonjour Bruno.
Vous êtes économiste, spécialiste forcément de l'économie du tourisme, maître de conférence à l'université Paris-Est, l'université...
Gustave Eiffel.
Évidemment. Et puis tout à l'heure, nous serons avec Corinne Ménégo, la directrice générale de l'Office du tourisme de Paris, qui nous a reçus dans ses locaux. Émission alimentée par plusieurs reportages tournés dans Paris et dans sa région. Émission que vous pourrez partager, commenter sur notre compte Facebook RFI Echo. Même chose sur Twitter, RFI Echo, E-C-O. Bienvenue à tous, Paris est à nos pieds. Voilà une ambiance sonore, Jean-François Martins, qui doit vous faire du bien après cette zone de turbulence 2020-2021. Les plaies financières sont encore ouvertes pour la Tour Eiffel ?
Oui, on sort d'une époque que nous n'avions jamais connue. Une fermeture de la tour de près de 9 mois. Nous n'avions jamais fermé la Tour Eiffel aussi longtemps. Et évidemment, une perte financière absolument vertigineuse, puisque en 2 ans de Covid, entre les fermetures qui nous ont été légitimement imposées et puis le flux de touristes qui a mis du temps à revenir, c'est près de 155 millions d'euros de chiffre d'affaires en billetterie que nous n'avons pas reçu, près de 110 millions d'euros d'emprunts que nous avons dû faire parce que malgré l'absence des visiteurs, il y a tout un tas de dépenses qui continuaient à s'opérer à la tour et notamment ce qui est notre première mission, entretenir le monument, investir sur le patrimoine, refaire la peinture, l'ascenseur. Et donc c'est évidemment 2 années qui ont été très difficiles.
Le chiffre d'affaires habituel de la Tour Eiffel ?
C'est environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an avec près de 80 millions qui vient de la billetterie. Donc ce monument, il dépend d'abord et avant tout de la venue des visiteurs.
Vous avez retrouvé ce niveau de chiffre d'affaires maintenant en 2022 ou pas tout à fait ?
Non, pas encore. On a une année que nous prévoyons à environ 81% de notre visitorat habituel, donc un peu en dessous de 5 millions de visiteurs. Les meilleures années, nous avons fait jusqu'à 7,4 millions de visiteurs. Donc on est encore, nous, sur une prévision qui était un peu prudente parce qu'il se trouve que pour l'instant, on est un peu en avance parce que si le tourisme européen est reparti, si les Français vont voir et redécouvrent les monuments près de chez eux, il nous manque encore les marchés lointains et notamment l'Asie et l'Amérique du Sud.
On va en parler. Sylvain Zegny, l'économie du tourisme en Île-de-France, essentiellement basée sur ces grands monuments, la Tour Eiffel ici, mais aussi le Louvre, le Château de Versailles.
Bien sûr, oui. Alors, d'autres monuments aussi, même si ça n'est pas vraiment des monuments, il faut quand même voir que le parc d'attractions de Disneyland Paris, c'est 14-15 millions de visiteurs par an. Donc, c'est quand même des monuments très, très importants.
Mais ce sont les locomotives.
Et ce sont les locomotives de l'Île-de-France. Hein. Trois grosses locomotives, effectivement, Paris Intramuros avec le Louvre, la Tour Eiffel et différents musées aussi, le château de Versailles et bien évidemment la plus grosse attraction en termes de visiteurs, qui est le parc Disneyland Paris.
50 millions de touristes chaque année, c'est ça, en Île-de-France?
À peu près, oui.
Ces touristes étrangers, eh bien, on va les entendre tout de suite dans ce reportage tourné ici, à la Tour Eiffel, par Marine Salaville du service économie de RFI.
Au pied de la tour, les touristes se pressent pour passer la sécurité. Le Champ de Mars n'est pas bondé, mais les visiteurs sont bien de retour, à commencer par cette Italienne, Dinora.
C'est la première fois que je viens et j'ai tout aimé. Toute la France, la beauté de Notre-Dame qui est vraiment très belle. Mais le plus intéressant, c'est de découvrir la tour Eiffel. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde ici, pour voir la tour Eiffel.
Un peu plus loin, un couple de Canadiens profite de la vue sur la Dame de Fer. Après 2 ans difficiles, ce voyage a une saveur particulière pour Adila.
Nous avons décidé que la pandémie n'était pas un problème pour nous. On s'est dit qu'il était temps de passer à autre chose maintenant. Donc, on a tout simplement décidé de venir. On en avait vraiment besoin. Pour moi, c'est un lieu mythique. C'est la deuxième fois que nous venons ici et nous adorons Paris.
Yugi Yam, un jeune guide touristique, confirme la tendance. La pandémie n'est presque plus qu'un lointain souvenir.
Avec le Covid, il y avait beaucoup moins de monde. Du fait que tous les plans ont été décalés pendant 2 ans. Il y a beaucoup de monde qui arrive en disant que leurs tickets, leurs billets ont été décalés pendant 2 ans. Mais là, en ce moment, on peut dire qu'il y a un très important flux de personnes qui arrivent. Notamment des touristes qui viennent de la part des États-Unis et même partout en Europe aussi.
Pas d'Asie du coup ?
Non, pas vraiment. Enfin, de ce que j'en connais, non, pas trop.
Le guide reste cependant optimiste. Il s'attend au retour des touristes asiatiques dans quelques semaines, au début de l'été.
Reportage de Marine Salaville. Il est temps de passer à autre chose, disent ces touristes Jean-François Martins. La pandémie derrière nous, restons prudents hein, quand même. En tout cas, les professionnels attendent avec impatience le retour des Asiatiques et surtout des Chinois. C'est vrai que là, quand on regarde autour de nous, les Asiatiques ne sont pas là.
Oui, et la bonne nouvelle, c'est que pendant les 2 ans de pandémie et notamment les moments où les fermetures de frontières, les contraintes au déplacement et les fermetures de monuments étaient au maximum, on a continué à mesurer le désir de visite à Paris en disant est-ce que finalement, alors que les gens ne peuvent pas bouger, est-ce qu'ils ont encore envie de venir à Paris? Est-ce que quand les contraintes se libéreront, les gens reviendront? Et en fait, durant toute la période de pandémie, on s'est rendu compte que le désir de Paris progressait même pendant la pandémie. Donc on savait que le jour où les contraintes allaient se lever, le jour où les gens allaient pouvoir à nouveau venir, ils allaient être là. Et c'est plutôt ce que ça a confirmé. Les marchés, ils reviennent au fur et à mesure de la levée des barrières. Les Français ont été les premiers à revenir. Les Européens sont ensuite revenus. Les Américains reviennent très, 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 très fort en ce moment. Et les pays qui ont le plus de barrières et de contraintes au voyage et des situations pandémiques encore compliquées, notamment l'Asie, ne reviennent pas. Pour cette raison et aussi pour une deuxième raison, c'est que ces marchés lointains sont souvent des marchés plus organisés, agences de voyage, tour opérateurs, avec un délai de programmation, de réservation qui est plus anticipé. Et donc, on a un effet retard de 6 mois par rapport à la clientèle traditionnelle.
Sylvain Zegny, le principe des vases communicants, hein, quand les Asiatiques ne sont pas là, d'autres viennent.
Oui, bien entendu. Mais alors, j'ajouterais par rapport à ce qui vient d'être dit que la raréfaction de l'offre aérienne également, mais aussi les contraintes qui sont liées à la restauration, à l'hôtellerie, le fait qu'effectivement, on ait un manque de personnel et des difficultés de recrutement aujourd'hui, fait que ces marchés lointains ont aussi beaucoup de mal. Hein. Lorsque vous voyez le prix d'un billet d'avion aujourd'hui qui est lié à la raréfaction de l'offre, bien il est sûr qu'un touriste chinois, qui souvent vient en groupe, souvent sur des programmes, bien avec une telle augmentation des prix, va hésiter à venir. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, dans quelques temps, dans peut-être 3 mois ou 6 mois, le tourisme en provenance d'Asie, mais aussi de l'Amérique latine, ne reviendra pas, évidemment. Mais ça prendra beaucoup plus de temps qu'on ne l'imagine actuellement.
Oui, le contexte d'inflation généralisée à l'échelle mondiale va jouer sur la reprise du tourisme.
Oui, le contexte de crise économique aussi. Il faut bien voir que cette crise économique qui se manifeste par l'inflation, mais aussi par tout un tas d'autres phénomènes, entraîne aussi des problèmes de pouvoir d'achat. Donc effectivement, des populations qui venaient du monde entier et qui se trouvent quand même en crise chez eux vont préférer aller effectivement moins loin et sans doute ça va encore retarder ce retour des touristes. Mais l'envie est là et on le voit même aujourd'hui ici à la Tour Eiffel.
Le tarif d'accès à la Tour Eiffel ne va pas bouger, Jean-François Martins, malgré l'inflation.
Alors il a une courbe de progression mais qui est fixée parce que le monument est un monument de service public. Il appartient à 99% à la ville de Paris qui, dans la délégation qu'elle nous confie, nous a demandé de maintenir une tarif accessible. Donc aujourd'hui, il vous coûtera 26,80 € pour monter au sommet pour un adulte. Et puis, il y a tout un tas de réductions pour les publics jeunes, demandeurs d'emploi, etc. Et on a une progression qui est de quelques centimes par an, qui est programmée sur plusieurs années, qui sera très inférieure à l'inflation. On va faire en sorte que le monument reste accessible, même si nous aussi, que ce soit sur l'énergie, sur les matières premières, sur les chantiers, on fait face à l'inflation comme nos visiteurs y font face sur les billets d'avion, sur l'hébergement ou sur leur pouvoir d'achat quotidien.
Surtout quand on fait des travaux.
Surtout quand on fait des travaux en ce moment dans une zone Île-de-France qui est en tension sur les marchés de BTP et sur des savoir-faire qui sont spécifiques et uniques. Comme par exemple, nous sommes en train de rénover l'ascenseur nord de la Tour Eiffel, sur lequel on a décidé de préserver le patrimoine historique de la manière dont Gustave Eiffel les avait conçus. Et autant vous dire que des ascensoristes qui savent encore faire du vérin hydraulique comme à la fin du 19e, ils ne sont pas si nombreux.
Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval,
c'est ça,
comme on dit. Sylvain Zegny, dans ce mouvement de reprise du tourisme en Europe, est-ce que la France est bien positionnée par rapport à ses voisins, par rapport au Royaume-Uni, par exemple, handicapé peut-être par le Brexit ?
Le handicap pour le Royaume-Uni vis-à-vis du Brexit, on ne l'a pas encore beaucoup vu puisqu'il y a eu effectivement la pandémie qui de toute façon a réduit les possibilités. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, oui, effectivement, est handicapé à la fois par les problèmes monétaires, parce que la livre est forte par rapport à l'euro, par la réduction du nombre d'Eurostar, du nombre de vols effectivement vis-à-vis du Royaume-Uni. La France a cette chance d'être au centre de l'Europe et Roissy est une très très grosse plateforme au niveau européen. Enfin, Aéroport de Paris, Roissy et Orly sont des grosses plateformes. Donc ça permet effectivement d'avoir une concentration de la venue des touristes en France, beaucoup plus que sur d'autres pays. Mais l'Italie par exemple ou l'Espagne sont aujourd'hui des concurrents certains.
Jean-François Martins, Sylvain Zegny, vous restez avec nous. Pour avoir une vue plus générale de la situation en Île-de-France, j'ai contacté l'Office du tourisme et des congrès de Paris. N'oublions pas en effet le tourisme d'affaires. Sa directrice générale, Corinne Ménégaud, m'a accueilli dans ses bureaux, rue Beaubourg, dans le centre de Paris, près de Notre-Dame et près du centre Georges Pompidou.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Corinne Ménégaud, bonjour.
Bonjour.
Comment se porte le tourisme parisien et francilien après ce choc de deux années de Covid et de conséquences très directes pour ce secteur économique ?
Oui, c'est vrai qu'on a vécu deux années très difficiles. L'ensemble des acteurs du tourisme parisien ont beaucoup souffert. Et là, nous avons la chance d'avoir des indicateurs qui sont malgré tout au beau fixe, en tout cas pour le moment. Donc, on va continuer à croiser les doigts avec un retour de touristes étrangers. On le voit d'ailleurs dans Paris, hein, ça parle beaucoup différentes langues étrangères. Donc, c'est assez agréable de revoir ça.
Pas encore toutes les langues.
Pas toutes les langues, il nous manque effectivement notamment le continent asiatique qui reste quand même très absent forcément en ce moment encore puisque les vols n'existent quasiment pas et on n'attend pas de retour avant 2023 probablement sur ces populations-là, notamment sur la Chine. On commence à avoir arrivé quand même un peu de gens de Corée, du Japon, donc doucement, au compte-gouttes, ça revient un petit peu.
Pas les Russes non plus.
Et pas les Russes non plus, évidemment, vu la conjoncture. On avait très peur que cette guerre en Ukraine soit aussi un coup de frein sur l'activité touristique, hein, puisque c'est arrivé à un moment où la reprise commençait à arriver. Et finalement, ça n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Les marchés sont assez résilients sur le marché du voyage. Donc on a bon espoir qu'on revienne à des niveaux quasiment de 2019, ce qui est le cas en ce moment depuis le week-end de Pâques.
Vous êtes préparé à ce retour, sans savoir quelle ampleur il aurait, mais vous y êtes préparé ?
Alors surtout les acteurs du tourisme, nous, à la limite, on ne fait que les engager, les impliquer, essayer de leur rendre le plus de services possible et les accompagner, faire de la promotion de la destination. Mais les acteurs, oui, je crois, se sont quand même pas mal préparés. Tous les établissements sont quand même ouverts depuis des mois, parce que même sur la fin de cette crise du Covid, on avait quand même réouvert, même avec des fréquentations moindres, mais en tout cas, tous les établissements étaient ouverts. Après, ce qui est aujourd'hui très compliqué pour l'ensemble des acteurs, ça reste l'emploi, le recrutement. Il y a une vraie crise de l'emploi, mais c'est pas forcément lié qu'au secteur du tourisme. C'est globalement, je crois, partout à Paris, en France, également dans le monde, hein, puisque nos petits camarades étrangers ont les mêmes sujets. Aujourd'hui, effectivement, l'emploi du tourisme pèse à peu près 10%, c'est 9% effectivement de l'emploi en Paris, région parisienne. Donc ce qui rend aujourd'hui la reprise effectivement un peu compliqué. Peut-être que c'est aussi à nous, en tant qu'acteurs, de savoir comment s'adapter demain. Alors là, on est exactement au creux, je dirais, de la vague. Donc, on a une conjonction de facteurs qui fait que ça devient très compliqué. Mais je pense qu'il va falloir entamer une réflexion beaucoup plus long terme que juste conjoncturelle pour pouvoir résoudre ce problème de crise, effectivement, de l'emploi à terme.
Former différemment, former peut-être plus tôt dans les cursus scolaires.
Oui, alors formation certainement, encore que je pense qu'on est déjà plutôt pas mauvais, je dirais, en termes de formation. On a toujours des progrès à faire, mais globalement, on est plutôt bon, je crois. En revanche, peut-être aussi sur même des formats de contrat, d'horaire, de manière de voir le travail. On va avoir peut-être des jeunes qui vont cumuler 3 jobs. On est dans une vision qui n'est plus du tout la même que la nôtre auparavant, où on restait peut-être 10 ans dans une entreprise. En fait, ça n'existe plus. Donc peut-être ça veut dire qu'il faut aussi qu'on assouplisse nos règles.
Les jeunes demandent aussi souvent un intéressement sur leur salaire par rapport aux résultats.
Oui, ça peut être plus de variables. C'est aussi ce sujet du télétravail qui est arrivé et qui fait maintenant partie intégrante de nos contrats de travail, qui est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, évidemment, sur des activités touristiques où on accueille du monde. On a besoin d'être in situ. Mais du coup, peut-être aussi des aménagements, effectivement, contractuels, de charges, pour accompagner les professionnels dans cette transition vers un emploi probablement différent.
Comment faire évoluer aujourd'hui l'offre vers un autre tourisme? Est-ce qu'il faut diversifier les lieux de visite? Par exemple, on a beaucoup critiqué le tourisme de masse. Ça a été le cas beaucoup à Barcelone, un peu à Paris aussi.
Beaucoup moins à Paris. Pour le coup, on a la chance à Paris d'avoir un territoire.
Les Parisiens se plaignent parfois.
Oui, alors là, ils se plaignent beaucoup moins parce qu'ils sont très contents de retrouver des touristes qui font quand même vivre. C'est quand même une grosse économie touristique à Paris. Après, je pense qu'on a la chance à Paris d'avoir un territoire en plus qui est assez bien distribué, parce que les endroits où on a des sites majeurs qui peuvent être des sujets de tension à un moment donné entre les habitants et les visiteurs sont généralement assez loin des lieux de résidence. Donc, à part quelques poches très identifiées, ça reste très raisonnable, donc beaucoup plus facile à gérer. Pour répondre à la question, je pense qu'en fait, pareil, on est plutôt sur des choses qui préexistaient aussi à cette crise. Cette crise a joué le rôle d'un accélérateur et d'un coup de projecteur mis sur ce tourisme un peu plus durable, slow tourisme, plus expérientiel, où je cherche à profiter d'une ville de manière différente. Mais ça préexistait déjà. On parle de tourisme de masse. Le groupe pèse de moins en moins depuis... Ça fait 15 ans qu'en fait, le poids du groupe est de plus en plus faible, en fait. Notamment à Paris, je crois qu'on est passé à moins de 10% effectivement de touristes qui viennent en groupe. Et le reste au profit d'une clientèle individuelle et sur tous les territoires et toutes les populations. Et c'est toute cette richesse-là qu'on essaye de mettre en avant. On fait là, par exemple, un festival de visites guidées cet été, à pied, à vélo, en bateau, qui permet aussi de valoriser justement ces mobilités douces et de montrer que le territoire est parfaitement accessible avec ce type de mobilité et d'ouvrir des portes, du coup, d'expériences absolument insolites et incroyables que les visiteurs n'auraient même pas imaginées, probablement.
Aller à la Tour Eiffel, aller au Louvre, oui. Mais pas que.
Pas que. Et nous sommes très engagés à promouvoir justement ce fameux pas de côté. Moi, je dis toujours, allons à la Tour Eiffel, évidemment. Mais par contre, n'oubliez pas qu'à côté, peut-être à 500 mètres, il y a un jardin absolument incroyable à visiter, ou un artisan. On travaille beaucoup sur le Paris local, sur ce savoir-faire en fait, de nos artisans parisiens, parce qu'on en a beaucoup, et grands parisiens. Et donc, peut-être le meilleur croissant de Paris est à quelques mètres de vous, et c'est quand même dommage de ne pas aller le tester. Et c'est une vraie demande aussi de nos touristes qui ont envie de ce genre d'expérience un peu différente, qui fait que vous créez votre propre Paris, et ce n'est pas le Paris de tout le monde, en fait.
Vous avez parlé du Grand Paris. Le Grand Paris, ce sont les JO 2024, évidemment. Énorme défi, méga test pour le tourisme francilien.
Oui, alors évidemment, l'accueil et l'hospitalité vont être des sujets majeurs pour nous, qui vont nous permettre d'accélérer encore les mouvements sur ce sujet-là. Après, en termes d'accueil, on a évidemment un concentré de gens à certains endroits, puisqu'on a des sites olympiques et beaucoup de gens aussi qui viennent sans avoir de billets et qui vont vivre effectivement la ville. Et donc là-dessus, je crois que la politique de la ville est très claire sur le sujet pour pouvoir faire vivre les célébrations dans la ville et dans le Grand Paris de manière à pouvoir profiter de l'ensemble du territoire. En revanche, on a aussi un phénomène d'éviction de tourisme. Donc on ne sera pas non plus dans des volumes qui doubleront d'un coup par rapport à un été normal. Nous, nos estimations sont effectivement sur un volume globalement à peu près le même qu'un été normal, entre guillemets, touristique à Paris, avec par contre des enjeux de circulation sur le territoire qui ne sont pas les mêmes, évidemment.
Merci Corinne Mélégo.
Merci à vous.
RFI à Paris, 89 FM.
Corinne Ménégaud, directrice générale de l'Office de tourisme et des congrès de Paris. De retour ici dans les étages de la Tour Eiffel, c'est la magie de la radio autour de nous, vue imprenable sur le Champ de Mars, Notre-Dame, Montparnasse, l'Arc de Triomphe. On va revenir un peu plus tard sur les problèmes de recrutement et sur le tourisme durable. D'abord, les JO 2024, Jean-François Martin, c'est énorme enjeu, on l'a dit, pour toute la région. La Tour Eiffel, d'ailleurs, va changer de couleur, retrouver une couleur d'origine.
Oui, on est en plein dans ce chantier de peinture, la 20e campagne de peinture depuis l'histoire de la Tour. Tous les 7 à 10 ans, il faut repeindre la Tour, d'abord pour protéger le fer. La peinture, elle a une vocation de préservation, de lutte contre la rouille du fer. Et donc, depuis 1889, pardon, on accumule les couches de peinture. Là, on est sur la 20e. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, elle était rouge à sa ouverture. Elle est devenue marron. Elle était brun jaune. Et là, nous sommes dans la 20e campagne en train de revenir à la couleur que voulait Gustave Eiffel, le jaune brun un peu plus lumineux et qu'on est en train d'appliquer sur l'ensemble du monument.
Il faut que le monument soit beau pour les JO.
Il faut qu'il soit beau, évidemment, d'abord parce qu'il sera le symbole de ces Jeux, le symbole de Paris, diffusé à plusieurs milliards de téléspectateurs, mais aussi parce que la Tour jouera une place centrale, y compris vous n'avez pas échappé au fait que la cérémonie d'ouverture serait une grande parade sur la Seine qui devrait se terminer pas loin d'ici. Et donc, la Tour sera au centre du show d'ouverture. On aura envie de donner à cette occasion la plus belle image de Paris et donc de la Tour.
Sylvain Zegny, économiste du tourisme, des Jeux Olympiques, c'est plus de touristes, forcément, ou alors ça ne change rien, comme disait Corinne Ménégaud. Est-ce que c'est rentable d'un point de vue économique ?
Alors, du point de vue touristique, c'est équilibré, puisqu'il y a un certain nombre d'effets d'éviction. Si vous êtes effectivement un touriste, vous allez éviter la période des Jeux Olympiques. Et puis, il y a effectivement tous ces gens qui viennent du monde entier. Ça s'équilibre globalement, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que c'est rentable ? Oui, au niveau financier, non, c'est assez clair. Même si on réutilise des infrastructures, etc., il y a quand même des problèmes de sécurité majeurs aujourd'hui et qui augmentent beaucoup les coûts. On l'a vu à Tokyo avec la pandémie, ça a retardé d'un an les Jeux Olympiques, sans spectateurs, etc. Donc on peut toujours craindre un effet de dernière minute, une pandémie, une guerre en Europe, pourquoi pas. Bon, on n'est quand même pas loin.
Espérons
donc,
que non.
Voilà, espérons que non, mais tout cela sont des événements imprévisibles. Et lorsque l'on fait une candidature, lorsqu'on prépare en 2012-2013 la candidature, qu'on l'a, et finalement, il se passe 10 ans, et en 10 ans, il se passe beaucoup de choses. On a pris du retard sur le réseau du Grand Paris Express, etc. Donc tout cela, effectivement, mais c'est un pari, et c'est un pari où il ne faut pas se rater. Parce que c'est vrai qu'un événement en Mondovision, on l'a vu sur un petit événement qui est une finale de foot, voyez la répercussion que ça a pour une destination. Il faut savoir qu'avant la crise, Paris et Londres étaient à touche-touche en termes bon, on se battait sur quelques centaines de milliers de différences de touristes. Aujourd'hui, effectivement, les Anglais ont tout intérêt à dire « Mais regardez, Paris ne sait pas organiser une grande compétition sportive, etc. » Et on a quelques grandes inquiétudes. C'est la loi du genre, mais effectivement, quand on est en Mondovisio, il ne faut pas se rater. Et Paris a pris une belle initiative autour de l'axe Seine, mais c'est vrai que c'est risqué. Hein. Bon,
Jean-François Martin, sur ce point, cette compétition et effectivement voilà, la pression qui monte avant les JO.
Oui, mais le but des Jeux n'est pas tant, d'un point de vue touristique, le nombre de visiteurs que vous allez accueillir pendant l'événement, mais la trace que vous allez laisser et le désir de Paris que vous allez générer pour 10 ans. Le bon exemple pour ça, c'est Sydney 2000. L'Australie n'est pas une grande destination touristique avant les Jeux Olympiques de 2000. Et les Jeux, accompagnés par une politique ambitieuse du gouvernement australien d'émerger comme destination, a fait qu'ils ont connu une augmentation de la fréquentation des visiteurs. Ils ont quasiment fait x4 en 10 ans. Et donc, c'est ça qu'on va chercher.
Barcelone.
Tokyo, c'était la stratégie, évidemment. Ils ont eu un peu plus de difficultés. Et les Jeux étaient au cœur d'une stratégie d'ouverture du pays au tourisme. C'est ça qu'on va faire aussi. C'est-à-dire, évidemment, accueillir des gens pendant les Jeux, sans doute à peu près autant en août 24 que dans un mois d'août normal. Mais par contre, espérer et se donner les moyens qu'en surfant sur cette image de jeu, de fête, de célébration, de créativité parisienne, pendant 5 ans à 10 ans, cette image reste dans l'esprit des gens et génère du désir de visite à Paris.
Paris, une ville plus sportive grâce au vélo aussi, et c'est l'une des grandes tendances en effet de ces dernières années. On parcourt maintenant la capitale autrement que dans d'énormes bus qui polluent, il faut dire, dès qu'ils s'arrêtent et qui occupent beaucoup de place. Illustration avec ce reportage tourné hier par Nicolas Monch pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Le petit groupe de vélotouristes, toute nationalité, descend la rampe pour rejoindre une ancienne voie rapide devenue piétonne au bord de la Seine. En tête, Véronica, la guide.
les berges de la rive droite. It's only for bikers and for pedestrians.
Les cheveux dans le vent, lunettes de soleil, le regard tourné vers les monuments de l'autre côté de la Seine. Nathalie, une touriste française, apprécie.
C'est royal, quoi. Parce que les voitures à Paris, quand on est piéton, quand on est touriste, c'est toujours un peu galère, quoi. Il faut faire attention. Le vélo, c'est la liberté écologique. Tout en faisant du sport, donc on joint l'utile à l'agréable.
Ellie vient des États-Unis. Si avec son mari, ils ont opté pour un tour guidé à vélo, c'est aussi parce qu'ils ont vu de nombreux Parisiens filer sur les pistes cyclables.
On voulait faire quelque chose de sportif. Et comme on a vu à quel point Paris était accessible à vélo, on s'est dit que cela serait un meilleur moyen de découvrir la ville, plutôt que de faire une visite à pied ou en bus, par exemple.
Véronica, la guide, propose des tours à vélo depuis 13 ans et elle a vu sa clientèle changer.
Ce qu'on cherche, c'est le tour vélo, presque plus que le guidage. Il y a, je ne sais pas, moins 20 ans, il n'y avait pas de piste cyclable. Et ça a beaucoup changé aussi avec toute la période de l'épidémie. Hein. On se retrouvait avec les bus, les taxis, les voitures dans des embouteillages. Et puis là, on a des vraies autoroutes pour les vélos. Ça, c'est absolument génial. D'ailleurs, je vois la réaction des touristes. Hein. Ils trouvent que Paris est vraiment une ville pour les vélos. C'est vrai.
Convertie au vélo, la ville de Paris veut construire 180 km de nouvelles pistes cyclables d'ici 2026.
Reportage de Nicolas Manch. Sylvain Zegny, on sent cette demande pour ce tourisme différent, plus durable, peut-être plus confortable aussi. C'est effectivement plus agréable d'être à l'air libre quand on visite Paris.
Ah oui, d'autant plus que là, vous avez une perspective qui est fantastique avec les monuments, les voies sur berge, etc. Alors, ça dit, il reste quand même de grosses difficultés dans Paris, puisque effectivement, il y a la question du trafic qui est reporté sur d'autres voies, qui rend Paris un petit peu problématique dans certains quartiers pour les vélos. Et là aussi, la concurrence entre le tourisme à vélo et d'autres modes de circulation, et notamment pour les banlieusards qui viennent travailler en voiture, et peut créer des conflits. Bon, cela dit, effectivement, pour l'instant, on voit une très très grosse tendance ici à se développer autour du tourisme à vélo, mais pas seulement. Hein, tous les moyens de mobilité douce sont utilisés, et c'est toujours très très agréable. Et on comprend que dans un panorama tel que celui de Paris, effectivement, ça renforce cette idée d'être à l'air libre. C'est quand même mieux que de prendre le métro.
On a entendu une remarque qui s'adressait à vous, Jean-François Martins, en tant qu'acteur, on va dire, de la politique municipale parisienne et de ce mouvement vers les pistes cyclables. Il ne faut pas non plus que ça soit l'anarchie et il ne faut pas non plus que ça provoque des résistances chez les autres.
Non, mais vous entendez l'enthousiasme des visiteurs étrangers et comme ils ont à la fois une demande qui est de vivre une vie parisienne et devenir une vie authentiquement parisienne quand ils viennent désormais dans les villes, ils veulent je veux vivre comme un local. Bah, désormais à Paris, vivre comme un local, c'est aussi se déplacer en vélo et on a une chance à vrai dire incroyable. C'est la densité du patrimoine parisien en quelques kilomètres carrés. Paris, c'est 12 fois plus petit que Londres en mètres carrés, en kilomètres carrés. Et ici, on est à la Tour. En 10 minutes, on est au Quai Branly. En 20 minutes à Orsay, à peine plus pour aller au musée du Louvre, à pied. Donc c'est une chance absolument invraisemblable avec l'un des réseaux de transport en commun dont les Parisiens adorent dire du mal et c'est normal, mais qui au fond est l'un des réseaux de transport en commun les plus denses et les plus riches du monde, riches en termes d'offres. Et donc ça nous donne une occasion de visiter la ville de manière beaucoup plus agréable qu'en voiture. Et on se rend compte que les politiques publiques qu'on mène de lutte contre la pollution, de transition écologique, elle participe aussi à l'expérience de visite et à notre attractivité internationale. Et il suffit d'aller se balader sur les berges piétonnes désormais, de voir les visiteurs capables d'être dans un endroit sécurisé, de pouvoir lâcher la main de son enfant et qui se balade en regardant la conciergerie, le musée du Louvre, l'hôtel de ville ou Notre-Dame, pour se rendre compte que ces politiques, elles ne sont pas contradictoires entre ce qu'on fait pour le local, ce qu'on fait pour le climat et ce qu'on fait même pour nos visiteurs étrangers.
Sylvain Zegny.
On a la chance, parce qu'à Paris, effectivement, comme l'a dit Jean-François, on a une très grosse concentration sur l'axe Seine. Donc c'est vrai que en plus l'axe Seine avec les voies sur berge désormais piétonnes, c'est un atout majeur. Alors que lorsque vous êtes dans une ville comme Londres, où effectivement c'est beaucoup plus étendu, où les monuments à voir sont beaucoup plus dispersés, c'est beaucoup plus gênant de développer une politique, notamment de vélo. Hein, ça.
Les bus impériales qui circulent dans Londres et qui sont bloqués dans les embouteillages.
C'est aussi un lieu de fête. Et la fête à Paris, ça manquait un peu quand même ces dernières années. Et là, on voit effectivement la fête qui se trouve sur les berges de Paris aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un aspect d'attractivité pour la jeunesse et pour les touristes du monde entier.
Le climat, c'est aussi le secteur aérien qui est de plus en plus critiqué. Ça aussi, c'est en train de changer. Les touristes étrangers viennent un peu moins en avion ou viendront un peu moins en avion ?
Eh bien, il faut avoir une politique. Si on veut effectivement attirer des touristes de longue portée, ce sera toujours l'avion, malheureusement. Simplement, il faut que l'industrie aéronautique fasse des efforts. Aujourd'hui, le principal effort que fait l'industrie aéronautique, c'est sur les carburants. Simplement, les biocarburants ou l'hydrogène, ça pose beaucoup de problèmes. Les biocarburants, il n'y en aura jamais assez. Ça couvre à peu près 25 à 30% des besoins de l'aviation. Donc, ça veut dire que l'industrie aéronautique doit ouvrir des puits de carbone. L'objectif que s'est donné l'IATA, donc l'agence internationale, en 2050, d'avoir zéro net émission carbone, ça veut dire de traiter 1,5 gigatonnes d'émissions carbone en 2050. Vous ne faites pas ça avec des biocarburants. Il n'y a pas d'autre solution pour l'aviation.
En finir avec le tourisme de masse, c'est aussi une solution pour la planète. Ces images assez désastreuses de Venise ou de Barcelone, Jean-François Martins, surchargé de touristes avec d'immenses bateaux. Comment rénover le tourisme ? Est-ce qu'il faut davantage de lieux alternatifs ? Est-ce qu'il faut des visites virtuelles ? Peut-être ? Est-ce qu'on est obligé de se déplacer physiquement pour visiter un monument ?
Ça mériterait une émission à part entière, cette question du tourisme durable. Je vous renvoie, on a écrit avec Jean-François Rial, le président de Voyageurs du Monde, une note commune pour Terra Nova qui s'appelle « Pour un tourisme à impact positif ». Donc comment on fait ? Le sujet typiquement de Venise ou de Dubrovnik, c'est le moment où l'économie touristique est tellement puissante par rapport à l'économie locale qu'elle devient prédatrice. On a cette chance à Paris d'avoir une économie locale parce que capitale économique, politique, scientifique et culturelle, qui fait que le tourisme est une industrie puissante, mais pas suffisamment puissante pour pouvoir commencer à être prédatrice à l'égard de la commercialité locale, dans des proportions encore maîtrisées sur la question du logement, sur la question du foncier. Et donc, c'est d'abord une question d'équilibre. Et donc, il faut des économies locales fortes pour résister à la pression que l'économie touristique vient mettre naturellement. Et ensuite, c'est là où je ne partage pas complètement la thèse de Sylvain, on ne pourra pas uniquement par la technologie et la science résoudre la question du climat. Il y a forcément une modification de nos pratiques et de nos usages. Les voyages long courrier vont devenir de plus en plus chers parce que le coût du carbone, le coût du pétrole va inexorablement augmenter, et il faut qu'il augmente d'ailleurs pour qu'on en consomme moins. Et ça veut dire qu'un voyage long courrier sera demain peut-être moins fréquent, peut-être on en fera deux dans sa vie et pas un par an. Et puis ça veut dire que nous, on doit être capable de réinventer des manières de convaincre les touristes locaux. Paris, 80% de ces touristes étrangers sont des touristes européens. Et donc c'est là où la question du ferroviaire, la question du train va revenir comme un enjeu fondamental. Et deux, nous ici à la Tour, d'être capable de trouver chaque année des expériences nouvelles pour que les Parisiens ils viennent non pas une à deux fois dans leur vie, mais tous les ans, parce qu'ici on a animation, parce que demain on a un DJ set, parce qu'on a un produit unique, comme par exemple ce qu'on a fait avec Pierre Hermé, un macaron spécifique à la Tour Eiffel qui est événementiel et qui donne une raison de venir quand on est parisien, même si on est déjà venu.
Voyager virtuellement avec le métaverse ?
Oui, mais à un moment donné, sentir l'air de Paris, cette ambiance, une ville, ça rentre par les pieds, disait quelqu'un de ma famille. Et je pense qu'il faut avoir cette relation charnelle, mais peut-être l'avoir moins régulièrement et avec des modes de transport beaucoup plus respectueux de la planète.
Alors, je suis tout à fait d'accord sur le changement des pratiques, effectivement. Simplement, j'ai essayé de décrire ce qui était nécessaire si l'on maintenait toutes choses égales par ailleurs. Et c'est vrai que ça fait quand même des années que je dis et que j'interpelle les autorités en leur disant attention au tourisme long courrier, c'est pas l'avenir. Mais en même temps, quand vous entendiez encore les politiques français, il faut plus de Chinois, il faut atteindre les 100 millions. On n'atteint pas 100 millions de visiteurs ou 110 millions de visiteurs sans les touristes long courrier. Et effectivement, à une ère de changement de pratique, c'est dément.
Vous avez abordé le logement. Voilà qui nous mène à un sujet un peu sensible. La nouvelle concurrence subie par les hôteliers et les restaurateurs, elle a pour nom Airbnb, plus généralement les plateformes qui permettent à un particulier de louer sa maison ou son appartement pour une courte ou plus longue période. Écoutez ce reportage d'Ariane Gaffuri du service économie de RFI.
Airbnb, une évidence pour ces étudiants de l'université de Jussieu à Paris.
Quand on est en groupe, c'est plus facile parce que on a une cuisine, donc on peut faire à manger.
Plus on est nombreux, moins on paye.
Dans le quartier latin, des touristes traînent une valise jusqu'à l'immeuble où ils louent un appartement Airbnb. La directrice de cet hôtel les voit souvent passer sous son nez. Sandrine Pralong.
Le concept Airbnb est effectivement un problème pour l'hôtellerie, notamment la taxe de séjour qui n'est pas imputée sur un séjour en Airbnb. Effectivement, là, on peut parler de concurrence déloyale.
Bonjour.
Bonjour.
après.
Ce trentenaire loue un hébergement dans son bateau aux touristes via plusieurs plateformes de location, dont Airbnb.
Alors nous, l'année dernière, sur l'été, on a fait dans les 4000 euros en le louant pas trop cher, autour de 75-80 euros la nuit, ce qui est à peu près deux fois moins cher que ce qui se pratique comme tarif dans l'hôtellerie.
Est-ce que vous déclarez vos revenus ?
On déclare tous nos revenus. Après, c'est vrai que ça nous arrive d'avoir le numéro de la personne qui nous rappelle en direct. Et puis, une fois qu'on connaît la personne, on va dire que c'est plus un client voyageur. Et donc, on s'arrange entre nous, en dehors de la plateforme, pour ainsi dire, au black.
La main Airbnb, certains hôteliers ont décidé de s'en emparer.
On utilise Expedia, Booking.com, mais aussi Airbnb pour promouvoir nos chambres. Mais ils ne le montrent pas comme si c'était un hôtel, mais plutôt une chambre.
Pour éviter toutes ces dérives, les associations d'hôteliers demandent davantage de régulation.
Davantage de régulation, demandent les hôteliers. Jean-François Martins, le modèle ancien de l'hébergement dans les hôtels classiques n'est-il pas quand même un peu dépassé ?
Non, je crois pas, parce que quand on regarde les taux d'occupation des hôtels parisiens, indépendamment de la pandémie, ils restent bons, ils restent à des niveaux d'ailleurs extrêmement élevés, près de 79% de taux d'occupation des hôtels à Paris pré-Covid. C'est parmi les meilleurs chiffres du monde, donc avec un parc hôtelier pour autant de près de 130 000 chambres. Donc en fait, le modèle hôtelier résiste, notamment grâce au tourisme d'affaires, notamment grâce à la rénovation des hôtels vers des boutiques hôtels, vers des expériences un peu moins standardisées. Donc il y a toujours une offre pour le produit hôtel. Il y avait deux sujets à traiter. Le premier, c'est l'égalité de traitement. Donc, il fallait qu'Airbnb paye la taxe de séjour. Nous l'avons obtenue de la part du gouvernement et qu'il y ait une régulation de ses activités. Pour résoudre le deuxième point, et qui est pour nous presque plus fondamental encore à Paris, qui est la question de la prédation d'Airbnb sur le logement. L'idée initiale d'Airbnb de, quand vous n'êtes pas là un week-end, prêter votre appart à un Américain de passage et vous mettrez un peu de beurre dans vos épinards en fin de mois, c'est magnifique, c'est merveilleux, ça n'embête pas grand monde et ça répond même à une offre hôtelière que l'hôtellerie traditionnelle ne sait pas traiter, le groupe de jeunes comme dans votre reportage, ou une famille avec deux enfants qui ne veut pas trois chambres d'hôtel, qui veut juste un appartement. C'est ponctuel. Le vrai drame, c'est que des gens ont transformé des résidences principales, celles qui devraient avoir vocation à Paris à loger des profs, des infirmières, des policiers, des gens qui arrivent à Paris qui doivent se loger. On a sorti ces appartements du parc résidentiel pour en faire des machines à cash Airbnb. Et c'est ça sur lequel on a obtenu une régulation de 120 jours par an, mais sur lequel il faudrait aller plus loin un jour, c'est-à-dire on ne devrait pouvoir louer sur ces plateformes que sa résidence principale et strictement principale pour que ça soit du revenu de complément, de l'hébergement de complément, mais qu'on ne détruise pas de la capacité de Paris à loger ceux qui veulent y vivre et y travailler.
Et en plus, Sylvain Zegny, tout cela apparaît alors que le secteur de l'hôtellerie, restauration est affaibli par la crise du Covid.
Alors certes, mais le secteur hôtelier sur Paris et la région parisienne se porte plutôt très bien, hein. C'est pas l'Airbnb. Airbnb a pu avoir, dans certaines villes à l'étranger, un impact fort. Pour prendre simplement un exemple en région parisienne, mais qui est l'exemple de Marne-la-Vallée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des immeubles qui se construisent et dont on sait que 80% des logements vont être capturés par des gens qui vont les louer sur Airbnb parce qu'effectivement, à côté de Disney, il y a des besoins hôteliers qui ne sont pas encore vraiment satisfaits. Donc ça, effectivement, les municipalités agissent effectivement contre cela, mais avec très peu de moyens, en fait. Donc Airbnb a quand même eu un avantage. C'est effectivement, ça a répondu à un besoin qui était un besoin dans les quartiers populaires de Paris, d'hébergement, et avec des touristes qui vont désormais dans les quartiers populaires, alors qu'avant, il n'y avait quasiment aucun touriste.
C'était l'ouest parisien qui était les quartiers chics.
Mais en même temps, ça veut dire que vous réduisez l'offre de logement dans ces mêmes quartiers populaires, où déjà la densité est forte. Oui. Et donc, effectivement, ça pose de nouveaux soucis en termes de logement des catégories populaires à Paris.
Les professionnels du tourisme, est-ce qu'ils doivent aussi avancer du point de vue de la formation, du point de vue de la qualité du service, parler davantage encore anglais, parler chinois peut-être ?
Non, je veux dire, c'était un sujet il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, la qualité... et on avait regardé avec... une plateforme que je ne citerai pas de revues et d'avis touristiques par les visiteurs. En fait, les notes des expériences parisiennes, restauration, hôtellerie, visite, sont plutôt au-dessus de la moyenne européenne. Donc en fait, on a plutôt un accueil qui est de qualité. On a des standardisations avec les étoiles, avec les labels qualité touriste qui sont plutôt de qualité. Et une fois de plus, 50 millions de visiteurs par an, ville la plus visitée du monde, un taux d'occupation d'hôtel. Je sais qu'il est de bon ton de toujours s'auto-flageller, mais indépendamment du Covid, on a une industrie hôtelière qui va bien, qui fait plutôt bien son métier, qui accueille bien les gens. On est toujours perfectible, mais on a plutôt une destination dont on doit être fier. bien.
On a quand même intérêt à apprendre à parler chinois.
Mais peut-être pas, parce que comme on l'a évoqué tout à l'heure, sans doute nos réserves de marché futures pour continuer à être une belle ville touristique, mais de respecter la planète, sera peut-être plutôt de parler hollandais, anglais, italien et espagnol.
Le problème de la pénurie de main-d'œuvre, pas de problème ici à la Tour Eiffel pour recruter.
Bien sûr qu'on a presque une soixantaine de postes vacants aujourd'hui sur les agents d'accueil. On est dans une situation simple. Hein. Le taux de chômage en France, il est à 7,4%. Il est à 6% à Paris, avec deux années de Covid au milieu qui nous ont empêchés de faire des nouveaux entrants dans cette main-d'œuvre du tourisme. Donc on est un peu comme tout le monde. Là, on essaye de convaincre. On repense aussi nos rythmes de travail pour les allier beaucoup plus aux aspirations d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle de la génération qui arrive.
Ce problème, il est bien réel. Il est bien visible dans les aéroports, le premier lieu d'accueil pour de nombreux touristes, pour les compagnies aériennes, mais aussi pour les personnels au sol. Aéroport de Paris recrute à tour de bras en vue de l'été, par exemple, celles et ceux qui aident les personnes à mobilité réduite. Reportage de Marine Salavi.
C'est un véritable salon de speed dating. Après un bref exposé général, chaque candidat rencontre un recruteur en tête-à-tête. Aujourd'hui, ils prétendent tous à un poste d'APMR, comprenant accompagnant de personnes à mobilité réduite. Méziane Aftis, du groupe 3S Alizia, expose les qualifications nécessaires.
L'un des prérequis essentiels, c'est l'autonomie de déplacement. L'autre, c'est l'aspect communicatif. Puisque, comme je le disais, ce sont des passagers en situation de fragilité, complètement dépendants de l'accompagnant, avide d'informations, et il va s'agir pour l'agent de rassurer à la fois par le verbal mais aussi par le non-verbal. Donc l'anglais est absolument nécessaire. Et c'est aussi la raison pour laquelle on forme, nous, nos salariés à la langue des signes de façon à ce qu'ils puissent aussi entrer en communication avec les personnes sur des murs.
Dans la salle d'attente, tous les profils, tous les âges, mais aussi tous les niveaux de stress se côtoient. Avant son entretien avec le groupe aérien Samsic, Bacher, 22 ans, est relativement décontracté. Cet emploi en intérim l'intéresse uniquement dans un but précis.
J'étais étudiant l'année dernière et là, je compte juste faire agent PMR pour financer ma prochaine école. Disons que j'ai plus quelqu'un en situation de handicap chez moi et je me suis occupé très très longtemps de lui. Donc je peux dire qu'on va dire il y a la notion de relationnel dans le handicap, tout ça, qui peut m'aider.
Mais la plupart des candidats ont des envies d'emploi à plus long terme. C'est le cas de ceux qui travaillaient déjà dans le secteur de l'aérien, comme Anya.
J'ai vu qu'un PHMR y recrutait. Et comme j'ai dit, j'étais à l'aéroport et je les vois, les PHMR, et c'est un métier, ça m'attire en fait dans l'aide, le partage, voilà. Samsic, ils sont sur le terminal A, B, C, D et j'étais déjà là-bas. C'est juste, on va dire, la facilité vu que je connais déjà, je vais pas me perdre. Voilà, c'est pour ça.
En une matinée, 140 personnes ont passé en entretien pour 150 postes disponibles. Les sélectionnés commenceront leur contrat court dans les prochaines semaines.
Sylvain Zegny, y en a de l'énergie chez ces jeunes qui veulent être embauchés, en l'occurrence dans les aéroports. Il faut les pousser, il faut les aider.
Alors c'est des métiers de passion, c'est des métiers de courage aussi, parce que effectivement, 35 heures dans l'hôtellerie ou dans les aéroports, on fait beaucoup plus. C'est souvent des salaires un petit peu justes. Donc, par exemple, nous, on forme des étudiants en master en hôtellerie. Ils ont un master, donc un bac plus 5. Ils rentrent à des postes de responsabilité à 1700, 1800 euros. Donc, effectivement, lorsque vous faites un master de finance, vous gagnez beaucoup plus. Donc, il y a des métiers de passion, il y a des métiers de reconnaissance, il y a une volonté. C'est aussi à l'industrie du tourisme de s'adapter dans chacun de ces secteurs pour offrir de nouvelles conditions de travail. Ce n'est pas forcément simplement un problème de salaire, parce que le problème de salaire a toujours existé, mais c'est aussi un problème générationnel, un problème de.
C'est ce que disait Jean-François Martin, c'est effectivement les horaires, la souplesse dans les horaires, faire appel à la main-d'œuvre étrangère aussi, c'est une des grandes questions du moment.
Alors je pense que c'est un débat plus général sur la pénurie de main-d'œuvre en France, dans les BTP, les services. L'hôtellerie, la restauration, je pense qu'après 6 mois de campagne présidentielle à parler de lutte contre l'immigration, nous n'échapperons pas finalement à devoir faire un grand plan d'accueil de main-d'œuvre étrangère qualifiée dans tous ces métiers, où finalement la courbe démographique et nos besoins de main-d'œuvre feront comme on l'a fait à plein d'époques de la vie de la France. On va accueillir très largement des gens qui vont venir nous aider à construire la prospérité de notre pays. Et réjouissons-nous.
On n'a pas beaucoup parlé du tourisme d'affaires. À la Tour Eiffel, vous ouvrez un grand restaurant avec le chef Thierry Marx. C'est ça le but ? Accueillir des businessmen, des businesswomen.
Alors, on a toute la gamme de restauration à la Tour. Il y a un restaurant étoilé au deuxième étage, le Jules Verne, avec Frédéric Anton, meilleur ouvrier de France, qui a une cuisine absolument invraisemblable au deuxième étage. On ouvre plutôt une brasserie qui va être effectivement parfaite pour un déjeuner d'affaires ou même pour des touristes qui veulent découvrir l'authentique cuisine parisienne.
Avec des produits de saison en circuit court, naturellement.
Exactement, avec des légumes de Seine-et-Marne, des herbes aromatiques du 20e arrondissement de Paris. Et puis, on a avec le salon Gustave Eiffel un lieu où on a des rendez-vous d'affaires. Donc la tour, elle doit être pour tout le monde, pour tous les usages, de la demande en mariage au rendez-vous d'affaires. La tour, elle est capable d'être ce lieu de rassemblement et d'expérience parisienne absolue.
Sylvain Zegny, le tourisme de luxe indispensable, effectivement, pour Paris et pour l'Île-de-France. Les Russes, par exemple, c'est une clientèle privilégiée.
Alors oui, mais il n'y avait pas que les Russes. Aujourd'hui, on a un retour de la clientèle américaine, de la clientèle européenne également. Il ne faut pas négliger aussi les nouveaux arrivants, qui étaient l'Amérique latine, notamment le Brésil, mais aussi le sous-continent indien. Donc il y avait aussi toute cette clientèle-là. Alors, effectivement, le luxe, il peut se trouver partout. Les grandes marques de luxe, ils se trouvent à Londres, ils se trouvent à New York, etc. Et Paris est, de ce point de vue-là, une ville qui a des atouts supplémentaires par son patrimoine historique, par sa culture et par la culture qu'elle représente. Les grandes maisons de couture sont aussi là. Et ça, c'est aussi un facteur important parce que même si vous pouvez acheter une grande marque de luxe, vous ne retrouverez jamais le magasin des Champs-Élysées, effectivement. Donc, il y a aussi cela qui fait l'attractivité de Paris. Je ne suis pas trop inquiet sur le secteur du luxe. Je le suis un peu plus sur le secteur des congrès et événements, où là, effectivement, la capacité de Paris, qui était plutôt d'être spécialisée sur les très grands événements, salons, etc., est aussi, mais c'était déjà avant la crise, un petit peu remise en cause.
Et le télétravail, forcément, est une tendance.
Le télétravail, mais pas simplement. Quand vous faites un salon de l'armement, par exemple, c'est parce que vous avez une industrie d'armement derrière. Donc le tourisme d'affaires, il est aussi très corrélé à l'activité industrielle et de service. Et donc, effectivement, il se déplace en fonction de ces activités-là.
Ce sera le mot de la fin. Merci, Sylvain Zegny, économiste du tourisme, professeur à l'université Gustave Eiffel, Paris-Est. Merci à Jean-François Martins, président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, de nous avoir accueillis ici, la Tour Eiffel, tellement utile pour nous à RFI, puisque tout en haut, là-haut, à plus de 300 mètres, se trouve l'émetteur radio qui nous permet de diffuser nos programmes sur Paris et sur l'Île-de-France. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis cet écho d'ici, écho d'ailleurs assez exceptionnel. Vous en conviendrez, nos équipes éditoriales, le service économie de RFI, nos services techniques, notre service vidéo. Vous pourrez voir des images de ce tournage sur les réseaux sociaux de RFI, sur nos comptes Facebook et Twitter, RFI Echo. Un nouveau journal, tout de suite, sur RFI. Portez-vous bien.
Un jour, une jeune et belle américaine voulut voir Paris et les bords de la Seine. Elle visita les monuments, les musées, les grands magasins, les rues et les cafés. Mais voilà qu'un soir, elle rencontra l'amour. Et maintenant, quand on lui demande à son tour, quel est votre avis, miss, sur Paris? Franchement, elle dit en rougissant, Paris, mais c'est le Tour Eiffel avec son point qui monte au ciel. Le Tour de Pise, le Tour de Nel, le Tour de Londres, oh, ils sont bien moins belles. On est toujours sourd avec elle de monter jusqu'au septième ciel. Paris serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est le Tour Eiffel, vous voyez. Paris, mais c'est la Tour Eiffel.